Et bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Plus de vie, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Jérémy. J'aimerais aujourd'hui continuer notre réflexion sur les bases de la vie chrétienne, de la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va vraiment considérer ce que dit la Bible au sujet de notre corps, qui en fait est un temple. Dieu nous a fait corps, âme et esprit, et puis il a déclaré au travers de ses apôtres, au travers des écrivains de la Bible, eh bien que notre corps est un temple où il voudrait habiter par son esprit. Et c'est important de le réaliser, parce que comme ça, ça nous donne vraiment du courage pour pouvoir prendre soin de notre corps, pour pouvoir en faire des belles choses et ne pas le laisser être pollué par tout ce qu'il y a dans le monde. Le message de l'évangile concerne tout mon être, ainsi que mon corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, il est dit « Mon corps est un temple et le temple du Saint-Esprit qui est en moi et que j'ai reçu de Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'ai été racheté à un grand prix. Je glorifie donc Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est important de comprendre ça. Mon corps, c'est juste un outil que Dieu m'a donné pour interagir avec tout ce qui est matériel autour de moi. Et à l'intérieur de ce corps, Dieu voudrait venir habiter par son Esprit Saint. Et ce corps, du coup, ne m'appartient plus. Une fois que j'ai été sauvé, racheté de mes péchés, c'est pas juste Jésus Sauveur, mais c'est aussi Jésus Seigneur. Il vient, il prend place en moi. Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit, il vient habiter en moi. Et il anime toutes mes décisions. Et il fait que mon corps n'est plus un instrument pour la débauche, mais un instrument pour l'œuvre et le service pour Dieu. Le croyant né de l'esprit respecte son corps. Dans le verset 13 à 18, il est dit « Mon corps n'est pas pour la débauche ». C'est quoi la débauche? C'est par exemple les adultères, la prostitution, la fornication, la violence, toutes ces choses comme ça. La débauche, ça peut être l'ivrognerie, etc., etc. En plus, toutes ces choses propagent des maladies, font que les gens sont même abîmés à l'intérieur, dans leur corps. On fait attention à ne pas utiliser notre corps pour la débauche, mais mon corps est pour le Seigneur. Le disciple de Jésus, il est né de l'esprit, il se garde de toute relation sexuelle en dehors du mariage. Il use de son corps dans le cadre normal des relations conjugales établies par Dieu. La Bible en parle. La Bible dénonce les doctrines de démons qui enseignent le mépris du corps et qui prônent l'ascétisme. Par exemple, ne pas se marier ou faire abstinence. Tout ça, c'est condamné dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Les démons veulent pousser les hommes à dire « ne te marie pas, ne te marie pas, c'est un péché », alors qu'en vrai, c'est un cadeau que Dieu donne. Et vraiment, c'est beau de pouvoir avoir ces relations-là. Alors certains choisissent de ne pas se marier, c'est un choix, Paul en parle aussi, et c'est honorable, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des personnes qui choisissent de ne pas se marier car ils ont des objectifs dans leur vie. Par exemple, ils veulent servir dans des endroits dangereux, ils ne préfèrent pas emmener leur famille dans ces conditions-là, ou même être un sujet de tristesse pour une famille. Ils préfèrent tout simplement se garder célibataire. Mais ça, c'est une bonne raison. Il y a d'autres raisons, comme quoi on dirait que non, le mariage, c'est impur. Non, le mariage, c'est pas impur. Le mariage, c'est magnifique. Je sais ce que je dis. Jésus s'est incarné dans un corps semblable au nôtre. La seconde personne de la divinité n'a pas méprisé ce corps pour y habiter. Au contraire, Jésus a eu un corps, il en a pris bien soin. L'évangile n'est pas confié aux anges qui n'ont pas de corps, même s'ils peuvent prendre une apparence humaine quelquefois, mais aux hommes, pour que nous puissions témoigner à nos semblables de ce que Jésus a fait pour nous. C'est important de comprendre que notre corps nous a été donné pour agir avec ceux qui ont un corps aussi, et tout ce qui est matériel autour de nous, mais d'une manière pure et pour le Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur, notre corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est aussi pour le corps, verset 13. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est un des résultats de la présence du Saint-Esprit dans le cœur du disciple, un des fruits de l'Esprit. C'est pourquoi il est écrit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti » 1 Corinthiens 9, 27. Ça ne veut pas dire que je le maltraite, mais je le traite durement, ça veut dire que je ne le laisse pas me maîtriser. C'est pas à mon corps de me dire ce que je dois faire. Mes passions, mes désirs charnels ne doivent pas motiver et diriger ma vie. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les incroyants. 1 Timothée 4, 4. Il faut savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est important. Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, il est maître de son corps. Il gouverne ses passions, ses désirs, ses pulsions, ses appétits, etc. Dans le cadre de ce qui est normal, selon les lois naturelles établies par Dieu et selon les lois morales révélées dans la parole de Dieu. Oui, C'est pas parce que je peux faire quelque chose avec mon corps que je dois faire cette chose avec mon corps. Il faut filtrer tous mes désirs à la lumière de la parole de Dieu pour savoir s'ils sont bons ou mauvais. Alors, quelques applications. Premièrement, les aliments, la nourriture, la boisson. Le disciple de Jésus né de l'esprit s'éloigne des excès de table, de l'ivrognerie, etc., qui sont des œuvres de la chair. Galates 5 à partir du verset 19. Je veille à avoir une alimentation équilibrée, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. 1 Timothée 4, 4. Ne vous enivrez pas de vin, dira Éphésiens 5, 19, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Je m'abstiens de tout ce qui détruit le corps, par exemple de l'alcool en excès, du tabac, de toutes ces drogues qu'on peut nous proposer, cannabis, hashish, yoga, iboga, pardon, toutes ces choses comme ça, c'est vraiment pas bon pour mon corps, je m'en préserve. C'est pas parce que je pourrais dire « Oh, une fois de temps en temps, c'est pas mauvais » que c'est pas mieux quand même de s'en préserver. Il y a des choses, vaut mieux pas y toucher de suite parce que ça risque d'être une drogue ou un piège pour moi. Je fais attention, je tiens mon corps dans la sainteté et le plus efficace, en meilleure santé possible pour être un instrument dans les mains de celui qui a donné sa vie pour moi, Jésus. Les soins d'entretien du corps, je fais attention à mon corps, j'en prends soin, je le lave. Parce que la Bible parle, par exemple, de se laver les mains. Et même si au début ça avait une image spirituelle, le fait de se purifier quand on s'approche de Dieu, il y avait quand même des habitudes qui étaient bonnes. Et avant que Louis Pasteur ne découvre les microbes, eh bien, il y avait quand même dans la parole de Dieu des conseils bien, bien à l'avance, en avance sur leur temps, qui montraient qu'il y avait avec un minimum d'hygiène, une sécurité qui pouvait être apporté pour éloigner les maladies. Se laver les mains, c'était déjà il y a 2000 ans, plus de 2000 ans dans la loi de Moïse, plus de 4000 ans maintenant, 4000 ans bientôt. Je crois que c'est beau de voir que avant même que nous on découvre ça, les microbes, il y avait déjà cette consigne qui était donnée pour l'hygiène. Je me lave, je lave mon corps, j'en prends soin. Pourquoi pas mettre un peu de parfum ? La Bible en parle aussi. Ce n'est pas mauvais, du moment que ce n'est pas l'objectif de notre vie. Les latrines, le fait de ne pas faire nos excréments n'importe où, ben c'était déjà dans la Bible. Et pourtant, combien de siècles ont été perdus ? Dans le Moyen-Âge, les gens jetaient leurs excréments par-dessus les fenêtres, ça arrivait dans les rues, ça polluait, il y avait la peste, il y avait les rats, il y avait tout ça. Et les gens mouraient de toutes ces choses. Alors que déjà dans la Bible, il est dit, tu ne feras pas tes besoins dans le camp, mais tu iras faire un trou à l'extérieur et quand tu auras fini, tu le boucheras pour que les animaux comme les rats ne viennent pas dans le camp et que les maladies ne viennent pas. Combien de pays encore n'ont pas compris ces choses et se retrouvent avec des maladies pas possibles ? Un tout petit peu d'enseignement là-dessus, un tout petit peu de bon sens tiré de la parole de Dieu dans Deutéronome 23, versets 12 et 13, par exemple, et nous aurions gagné des siècles et des siècles de maladies. Je maintiens mon corps dans un état de propreté. Hébreux 10, 22 dit « Le corps lavé d'une eau pure, et même s'il est parlé de la parole de Dieu qui lave mon cœur et mon esprit, je crois aussi que mon corps a besoin d'être lavé régulièrement. » Je prends les précautions élémentaires contre le froid, l'humidité. C'est normal que de prendre soin de soi. Dans Proverbe 25, verset 20, il est dit « ôter son vêtement dans un jour de froid, c'est dire des chansons à un cœur attristé ». C'est illogique, ça ne va pas avec. Quand il fait froid, je me prends un manteau. Et la Bible déclare aussi que le juste ne manquera pas d'un manteau pour tenir face au froid. Et je vous partage par exemple une expérience qu'un collègue pasteur a vécue. Il était dans les camps à Calais et il voyait tous ces migrants qui n'avaient pas de manteau en plein hiver, qui mouraient de froid. Et il était touché dans son cœur et il lit ce texte dans Ésaïe. Il dit « Mais Seigneur, tu as dit que le juste ne manquera pas d'un manteau dans le froid et que tu donnerais ces choses, ni mendiera son pain. Seigneur, pourvoi pour qu'on puisse avoir des manteaux pour leur donner ?» Et là, une personne de l'église vient le voir et lui dit « Pasteur, écoutez, on a un problème avec l'entreprise, on a fait des manteaux à l'effigie de la marque de l'entreprise, mais on en a commandé beaucoup trop et on va changer tout le protocole de les références, vous savez, de design. Et finalement, ces manteaux ne vont servir à rien. On a un semi-remorque rempli de manteaux, on doit le vider. Est-ce que vous êtes d'accord de le récupérer ? Est-ce que ça peut vous servir ?» Et là, le pasteur se met à pleurer et dire « Merci Seigneur, tu as pourvu au manteau pour ceux qui n'en ont pas, selon ta parole, gloire à Dieu. » Le disciple de Jésus, né de l'Esprit, entretient son corps en bon état pour le mettre à la disposition du Seigneur. Romains 12, verset 1 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. » La santé physique, je crois que Dieu peut intervenir et m'entretenir en bonne santé, selon sa promesse qui dit dans Exode 15, 26 « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Le disciple de Jésus né de l'Esprit croit à la guérison divine. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies, dit Psaume 103, verset 3. Jésus guérit les maladies. On le voit dans les évangiles, il le fait. Dieu peut guérir mon corps lorsqu'il est malade, fatigué. Et même le fait d'avoir une relation avec Dieu entretient mon corps en bonne santé. La prière, peut-être quelques jeûnes de temps en temps, des choses comme ça, font un bien fou à mon corps et c'est juste logique en fait. C'est spirituel aussi, mais des fois c'est juste du bon sens et c'est excellent. Le fait de ne pas être dans l'excès de la nourriture ou des choses comme ça, pas toucher aux choses de la débauche, pas s'enivrer, pas se droguer, tout ça, ça va conserver mon corps en bonne santé, bien qu'il peut m'arriver de maladies comme à tout le monde, c'est pas un signe de désapprobation de Dieu de manière automatique, mais en tout cas, Dieu peut agir et guérir ceux qui sont malades. Le disciple de Jésus, s'il est malade, il demande aux anciens de prier pour lui. Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. Il appelle les anciens viennent chez lui, ils l'oignent d'huile et Dieu guérit le malade. Il entend la prière qui est efficace, je le crois encore aujourd'hui et je le vois dans l'église. Lorsque des malades sont là et qu'ils demandent de l'aide, on prie pour eux et bien souvent le Seigneur agit et les soutient. Merci Seigneur. Le disciple de Jésus né de l'Esprit voit ses forces renouvelées pendant la marche. Il a la foi dans les promesses de Dieu. Et dans Isaïe 40, versets 29 à 31, il est dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Amen. Pour la vieillesse, tout simplement, le disciple de Jésus né de l'Esprit ne se décourage pas parce que son corps vieillit. Dans Psaume 103, 5, il est dit « C'est lui, Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et même si mon corps s'use comme tout le monde, c'est une des fatalités qui vient lorsqu'il y a eu le péché qui est entré dans le monde. On vieillit, on devient mortel. Et bien tout simplement, mon cœur se rajeunit, mon esprit se rajeunit, et je suis rafraîchi de jour en jour. Et je sais que si mon corps diminue sur cette terre, la Bible dit qu'au dernier jour, après le retour du Seigneur, mon corps ressuscitera et je serai transformé, je recevrai un corps incorruptible et j'irai dans l'éternité avec Dieu et il n'y aura plus de maladie, plus de vieillesse, plus tout ça. Gloire à Dieu. Dieu, Corinthiens 4, verset 16 à 5, verset 1, il est dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, là il parle de notre corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. La résurrection du corps, j'en ai parlé, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance, 1 Corinthiens 6, 14. Le disciple de Jésus né de l'Esprit s'attend à la résurrection de son corps. Un nouveau corps lui sera donné à la résurrection des justes. Romains 8, 11, puisque l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son Esprit qui habite en moi. Et au verset 23 du chapitre 8, encore dans Romains, « Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons et attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. » 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54, « Nous serons changés en un instant. » Notre corps corruptible deviendra incorruptible, notre corps mortel deviendra immortel. Ça c'est ce qui nous attend, gloire à Dieu. Et je le crois de tout mon cœur parce que Jésus m'a pardonné mes péchés et m'a donné la vie éternelle. Le disciple de Jésus, né de nouveau, sait qu'il sera rendu conforme à l'image de Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Alors en conclusion, puisque je suis né de nouveau, je respecte mon corps où Dieu est venu habiter par son Esprit Saint. Il y a un chant que j'aime beaucoup chanter qui dit « Puisque le même Esprit qui ressuscite à Christ est en moi, » est en moi, il me rend fort, plus fort que la mort, puisqu'il vit dans mon corps. » Que Dieu vous bénisse, prenez courage, prenez soin de votre corps qui est un instrument et une habitation pour le Saint-Esprit. À très bientôt, au revoir.